Bonjour à tous. Bon, sur Fréquence Mistral, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir la seconde équipe du CAMSP. Le CAMSP, c'est le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. Aujourd'hui, j'accueille Fanny Giraud, Marie-Michel qui sont psychomotriciennes et Caroline Lenné qui est orthophoniste. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Juste présentez-vous, s'il vous plaît.
Donc moi, je suis Fanny Giraud, psychomotricienne au CAMSP depuis 2 ans.
Donc Marie-Michel, psychomotricienne au CAMSP depuis 1 an.
Et Caroline Lenné, je suis orthophoniste au CAMSP depuis 11 ans.
Alors quel est votre rôle exact dans le CAMSP précisément?
Alors, du coup, nous, on est psychomotricienne. Donc notre travail, c'est une profession donc paramédicale, donc régie par un décret d'acte, et on travaille sous prescription médicale. Et notre vision, du coup, notre métier, c'est de considérer l'enfant dans ses sphères motrices, psychiques et affectives, les trois en permanente interaction.
Voilà, donc on passe essentiellement par du jeu moteur avec des expériences motrices et sensorielles pour aider l'enfant à mieux se développer dans son corps, à se repérer et surtout à avoir une image de lui positive, une estime de lui positive.
Mais auparavant d'intervenir, vous vous faites connaissance de quelle façon?
Alors d'abord, c'est les enfants qui viennent avec leurs parents sont vus par le docteur Quenet avec la puéricultrice Annelise Linas. Ensuite, ils sont reçus éventuellement par le docteur Dubois qui est pédopsychiatre. Ensuite, il y a un groupe d'observation éventuellement pour les plus grands et les plus petits peuvent nous être orientés directement après avoir vu le médecin. Ensuite, nous, on fait, selon la disponibilité de l'enfant, un bilan psychomoteur avec des épreuves étalonnées et aussi notre observation qualitative.
Quelles sont ces épreuves?
Alors, différentes épreuves qui touchent au domaine psychomoteur. Donc, ça va être les coordinations globales et dynamiques, les coordinations fines. Ce qui nous importe beaucoup chez les tout-petits, c'est le tonus. Comment l'enfant arrive à solliciter son tonus pour se servir de son corps? Est-ce qu'il est plutôt tendu? Est-ce qu'il est plutôt mou? On va aussi, pour les plus grands, regarder comment ils se repèrent dans le temps, dans l'espace, comment ils connaissent leur corps. Et donc, de tout ça, on essaye un peu de voir s'ils sont plutôt dans la norme, plutôt en retard, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'une aide à notre niveau.
Du coup, on regarde les fonctions motrices, mais on fait vraiment le lien avec tout ce qui est affectif. On n'est pas que dans la capacité à tenir 30 secondes sur un pied, mais dans comment il le fait, comment ça se passe au niveau de son corps.
Dans votre service, il y a beaucoup de salles où il y a beaucoup de couleurs et cet éveil passe également par ceci?
Oui, effectivement, ça permet de les stimuler et aussi des fois de les canaliser. On a aussi des espaces plus contenants, plus fermés, pour éviter qu'ils partent un petit peu dans tous les sens.
Et selon les enfants, les couleurs ont une importance. Vous orientez vers différentes couleurs selon les enfants qui sont avec vous?
Oui, alors chez le tout petit, on va préférer des couleurs contrastées, donc du noir, du blanc, du rouge, du bleu. On va éviter les couleurs plus douces, plus pastels. Et chez les plus grands, on préfère les canaliser dans des lieux où il y a des couleurs plus uniques, avec éventuellement des motifs, mais pas forcément énormément de couleurs.
Et si les enfants sont daltoniens, comment vous faites?
Alors, j'ai jamais eu l'expérience d'un enfant daltonien, mais en fait, le fonctionnement est le même. C'est juste qu'il ne voit pas la même couleur que nous. Mais les contrastes, je pense, je ne suis pas sûre, sont les mêmes.
Et quels sont les autres ateliers qui peuvent les veiller?
Nous, on travaille beaucoup avec, par exemple, des parcours moteurs. On va aussi utiliser tout ce qui est modelage, argile, pâte à sel, etc. On a aussi Moi, je travaille beaucoup avec le massage, par exemple, tout ce qui est touché, pour tout le travail autour des enveloppes corporelles. On va pouvoir aussi... on a une salle avec une piscine à balles qui va leur permettre aussi d'être un endroit, par exemple, où ils vont pouvoir décharger. On pourrait faire du théâtre, on pourrait faire de la danse.
On va aussi en bassin. On fait de l'aquathérapie. Donc ça permet beaucoup de travailler effectivement sur les enveloppes corporelles parce que l'eau stimule beaucoup. Et pour les plus petits, ça les permet d'être portés. Et ça enlève un petit peu la contrainte de la pesanteur pour les enfants hypotoniques, donc les enfants présentant des troubles moteurs.
Et les plus petits viennent à partir de quel âge?
Alors au CAMSP, on peut les recevoir à la naissance. Nos collègues font également de la prévention en anténatale. Et nous, psychomotriciennes, on peut les voir dès la naissance. On les a souvent à partir de les plus petits, à partir de 2-3 mois.
Quand vous les avez avec vous, vous voulez les stimuler, mais comment vous ressentez ce que eux voient, enfin comment dire.
Oui.
Est-ce que vous comprenez?
Une lecture un peu de la communication infraverbale, de leur mimique, de leur gestuelle, de leur regard.
Ça se voit beaucoup dans le portage notamment. Mm. Un enfant on les porte quand même beaucoup, donc on va les sentir tendus, détendus. Il y a beaucoup de dialogues qui se passent au niveau du tonus dans le portage.
C'est vrai que le tonus est le reflet de l'émotion et c'est vraiment notre base de travail pour les plus petits comme pour les plus grands. Et c'est ce qui va aussi permettre à l'enfant plus tard de développer ses coordinations de manière adaptée. S'il est trop crispé, il ne va pas arriver à tenir son stylo et pareil s'il est trop mou. Donc c'est vraiment dès le plus jeune âge très important pour nous.
Quand un enfant se love avec vous, c'est gagné.
Oui, s'il bouge et qu'il est dynamique, quand on le met devant des jouets, s'il a envie d'y aller, s'il est... c'est un tout, c'est très global.
Ah, se lever, c'était pour la confiance, comme ça.
La contenance. Oui,
il vous met dans son univers. Et d'autres, il y a d'autres ateliers. Donc, quels sont dans le parcours, quand les enfants sont avec vous, vous les suivez petit à petit. Quelles sont les étapes? Parce qu'il y a des ateliers, il y a des couleurs, il y a des exercices, mais d'autres étapes quand ils grandissent?
Quand ils grandissent, il va se rajouter au parcours moteur des stimulations aussi sensorielles pour qu'ils apprennent à mieux connaître leur corps. Et aussi, des coordinations. On va travailler les coordinations plus fines puisqu'il y a des demandes d'avantages scolaires après. Donc on va essayer d'aborder un peu le graphisme, laisser une trace avec tout ce que ça peut engendrer pour un enfant.
Et un enfant parle?
Oui.
Et donc il communique avec vous. Oui. Vous avez un chien également dans votre avec vous qui leur permet d'être un petit peu plus en confiance.
Oui.
Et quand il parle, vous voyez également l'évolution.
Oui, effectivement, on voit l'évolution dans le langage, dans leur relation avec nous, et on voit que le travail des collègues aussi fonctionne bien puisque. Voilà, on est très en lien au CAMS, on a une équipe pluridisciplinaire et on travaille vraiment en équipe et c'est très très important pour nous.
Ah oui, vous êtes obligé de vous concerter?
Oui, on le fait et c'est un grand besoin pour nous d'avoir les regards des collègues, les regards de l'orthophoniste, les regards de la psychologue, de la puéricultrice, de l'éducatrice. Alors tous les enfants, on voit pas tout le monde, mais c'est vrai qu'échanger pour nous, c'est très important.
Et quand vous êtes avec un enfant, est-ce que vos collègues peuvent venir avec vous?
Oui.
Ça arrive, oui, des fois, moi particulièrement, j'ai pu solliciter le regard de la neuropsychologue pour avoir plus son avis sur le développement cognitif de l'enfant. J'ai pu également solliciter les psychologues pour avoir un avis plutôt sur le développement psycho-affectif de l'enfant.
Et quand les enfants parlent, ils parlent de leur expérience avec vos collègues médecins?
Oui, ça arrive peu. Voilà, j'en ai peu qui sont dans le langage quand même. Ils parlent plus de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe à l'école, des choses qui les marquent, qui leur font plaisir. Et ces enfants qui se repèrent pas beaucoup dans le temps. Donc voilà, ils nous ramènent des événements qui les ont touchés plutôt dans la sphère familiale ou scolaire.
Et de par votre métier de psychomotricienne, un enfant, vous le voyez évoluer, vous le voyez bouger, il vous touche personnellement et physiquement.
Oui, oui.
Et bon, vous disiez que tout à l'heure, c'est dans le regard que ça se passe également. Mmh. Mais quand il fait avec de la pâte à sel, tout ça, vous lui montrez ce qu'il fait après?
Oui, alors ce qui est intéressant avec la pâte à sel, c'est qu'on peut la faire cuire, après on peut la peindre, on peut aussi la ramener à la maison, contrairement à la pâte à modeler où on va plutôt détruire nos productions en fin de séance. Donc ça permet effectivement de renarcissiser l'enfant, de lui montrer tout ce qu'il arrive à faire. Et aussi de s'inscrire dans le temps. D'une semaine, comme on voit les enfants une fois par semaine, voilà, ça permet de faire un travail sur la durée et qui est intéressant.
Et ce qu'ils font, les parents le voient?
Oui, en général, les productions qu'on peut garder, qu'on n'est pas obligé de détruire, effectivement, on fait souvent participer les parents. Pour les plus petits, les parents sont en séance avec nous. Et pour les plus grands, on peut effectivement ramener comme ça des productions à la maison.
Vous êtes trois présentes ce matin. Il y a également Caroline Lenné qui est orthophoniste. Vous, de par votre métier, quelle est votre fonction par rapport à l'enfant exactement?
Alors, mon rôle au CAMS consiste à prévenir, évaluer et puis également traiter les troubles de la communication, du langage oral et puis également les troubles de l'oralité alimentaire.
Et ces troubles, par rapport à vos collègues, vous les détectez comment?
Alors, de la même manière que mes collègues, j'interviens sur demande d'un médecin. De la même manière également, il y a tout d'abord un bilan qui est réalisé pour l'enfant en présence de ses parents. C'est un bilan également qui se fait avec des tests standardisés et puis une observation clinique et puis bien sûr l'échange avec les parents qui vont expliquer leurs demandes, ce qu'ils ont observé chez leur enfant. Et puis ensuite, il y a un diagnostic orthophonique qui est posé. Après, j'établis les objectifs de la rééducation et le plan de soins, le projet thérapeutique, la manière dont je vais m'y prendre pour aider cet enfant dans sa communication, dans son langage.
Il n'y a pas de limite dans le temps ?
Pour le bilan ? Or, le bilan se fait sur plusieurs séances généralement parce qu'on s'adresse à des tout petits. Donc c'est sûr qu'au bout de trois quarts d'heure, leur attention diminue quand même. Donc on prend environ 4-5 séances, parfois 3, ça dépend un petit peu de la participation de l'enfant, de son âge bien sûr. Hein. C'est vrai que plus l'enfant est grand, plus il y a de choses à tester, à observer.
Et comment vous faites pour les stimuler quand ils viennent vous voir ?
Alors, je travaille généralement de manière individuelle avec l'enfant, en présence ou non de ses parents, ça dépend de nouveau un petit peu de l'âge de l'enfant. Je travaille avec du matériel spécifique, hein, des jeux, du matériel orthophonique pour travailler des objectifs bien précis. Je peux travailler aussi avec des jeux un peu plus tout venant, mais que je vais détourner, que je vais utiliser de manière bien précise. Et puis, on peut travailler avec les plus grands, un petit peu sur des logiciels informatiques ou même, pourquoi pas, sur des applications sur tablette. Mais au CAMS, on s'adresse quand même à des tout-petits et plus généralement, ça se fait sur support de jeu.
Et quand vous parlez jeu, vous jouez avec eux ?
Oui, je joue, mais alors dans un objectif bien précis, c'est-à-dire que je ne joue pas pour jouer avec l'enfant. Mais moi, quand je prends un jeu, je sais ce que je vais travailler avec eux, suivant mon objectif. Est-ce que mon objectif, c'est de travailler l'articulation bien précise d'un son, ou est-ce que c'est de travailler l'organisation du vocabulaire, ou est-ce que je vais travailler la compréhension verbale, ou le fait de faire des phrases de plus en plus complexes.
Un enfant, quand il vient vous voir, bon, vous avez prévu de faire quelque chose de précis, oui. Mais l'enfant bouge, que ce soit dans sa tête ou physiquement. Comment vous faites quand il veut faire autre chose ? Vous avez des parades ?
Alors, c'est vrai que chaque séance est préparée. Ceci étant, c'est vrai que parfois on a prévu quelque chose et ça ne fonctionne absolument pas. Donc à ce moment-là, on range le matériel, on sort autre chose, on réajuste. Parce que c'est vrai que parfois les enfants n'ont tout simplement pas envie ou ce qu'on a prévu ne fonctionne pas. Donc il faut changer et s'adapter.
Et Fanny et Marie, ça vous arrive également que vous avez prévu quelque chose de précis puis que ça ne se passe pas du tout comme ce que vous avez prévu ?
Moi, du coup, je prévois peu. J'aime bien partir de là où est l'enfant, de ce qu'il a envie. Et je trouve que c'est important en psychomotricité d'être très, très ouvert et très large, parce qu'on est là pour voir où en est l'enfant aujourd'hui et ce qu'il a à nous montrer de lui-même aujourd'hui. Donc pour moi, c'est essentiel de ne pas préparer une séance, même si mes objectifs sont clairs. Mais c'est l'enfant qui me dira où il veut aller.
Vous avez quand même un but.
Oui, j'ai vraiment un but, mais c'est l'enfant qui va sortir le matériel qu'il a envie, qu'il commence à connaître, parce que les deux, trois premières séances, en effet, elles sont plutôt guidées. Et c'est à partir de là qu'on va partir. Et si un enfant aujourd'hui n'est pas bien et a surtout envie, surtout besoin de détente, qu'on soit vraiment là à l'écoute pour lui, et c'est ce dont il a besoin et c'est ça qui va l'aider à se redresser après. Et au final, qui va l'aider d'un point de vue moteur. Donc c'est assez souple.
Vous remettez à plus tard ce que vous voyez.
Oui et non, en fait c'est vraiment, pour moi j'ai des tonnes d'outils qui vont dans tous les cas me servir, quelle que soit la situation. Après voilà, c'est vrai qu'il y a des jours où il y aurait besoin de travailler beaucoup du moteur, et là on n'y est pas, ce sera la prochaine fois. Mais au final le fait de travailler sur la contenance, sur la confiance, ça joue sur le moteur, donc il n'y a pas de problème.
Et ces outils entre vous, ils peuvent être semblables ?
Oui, tout à fait. On a du matériel en commun qu'on s'échange selon le type d'enfant qu'on a, selon l'âge de l'enfant. Et on a du matériel différent dans nos salles respectives. C'est vrai qu'au CAMS, on a quand même la chance d'avoir pas mal de supports différents qui vont faire travailler les mêmes choses. Donc ça nous permet, quand l'enfant, par exemple, veut pas du ballon, de passer sur un autre support, un tapis, un autre jeu, qui va travailler la même chose, mais avec la coopération totale de l'enfant. Et donc, quand l'enfant est coopérant, on travaille de manière beaucoup plus efficace. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on a en tête nos objectifs de travail. Après, de quelle manière on y arrive, on est à l'écoute de l'enfant.
Oui, avec votre collègue Caroline, orthophoniste, ces outils également, vous pouvez les passer ou c'est vraiment, il n'y a pas de liaison entre vous dans vos métiers ?
Si, on va souvent piquer des jeux dans la salle des autres et se questionner les uns les autres, parce qu'il y a des fois des supports à nous qu'on n'arrive pas à utiliser nous en séance, et du coup qu'on va proposer à un autre soignant qui pourra s'en servir en fait. On est vraiment en lien, on échange énormément.
Là vous êtes trois, mais dans votre service il y a d'autres personnes, c'est pareil, vous échangez ?
De manière générale avec la psychologue, la neuropsychologue, la puéricultrice, l'éducatrice spécialisée, on va vraiment échanger nos matériels.
Et un enfant, quand vous le voyez, donc vous le faites travailler, mais l'évolution, vous le notez ce qu'il fait ou...
Tous les ans, en fait, on fait des réunions de synthèse par rapport aux enfants, où on réexplique devant toute l'équipe l'évolution qu'il a fait dans notre salle, mais aussi dans la salle des autres soignants. Ça, c'est important.
Et quand quelque chose ne marche pas, vous le mettez de côté, vous le mettez à plus tard, vous avez d'autres projets pour les enfants ?
On en parle aussi en équipe déjà, parce qu'on se dit peut-être que voilà, on a un collègue qui va nous aider là-dessus. Et puis en effet, si ce n'est pas le moment, on le reprendra pour plus tard.
Et ce moment plus tard, bon, il y a des choses antérieures que vous qui ne marchaient pas ?
Et qui marchent maintenant ? Bien sûr. Bah, des fois, les enfants, c'est surtout au niveau de la disponibilité, ils sont pas prêts à ce moment-là de travailler sur ce support-là. Donc moi, surtout en psychomotricité, je retravaille sur tout ce qui est contenance, prise de confiance, etc. Et après, hop, on peut repasser aux choses un peu plus compliquées. Voilà.
Selon l'humeur de l'enfant, ça se passe différemment ?
Oui, c'est très... on ne sait jamais trop ce qui va se passer au final.
Et vous savez bien entendu pas ce qui va se passer au final, mais selon l'humeur de l'enfant, il y en a qui sont taciturnes, il y en a qui sont hyperactifs.
Ouais.
Comment vous les sentez, ces enfants ?
Comment on les sent ?
C'est-à-dire ?
Comment vous les appréhendez ?
Alors moi, j'ai l'exemple d'un enfant en tête où effectivement ma salle qui est, donc vous l'avez dit, très colorée, avec des ballons, avec un toboggan, des fois c'est trop stimulant pour certains enfants. Donc au lieu d'essayer de les garder au bureau, de les contenir dans ma salle, on a la chance d'avoir des salles disponibles, des salles de groupe par exemple, qui sont plus contenantes, où c'est pas une salle de psychomotricité, donc il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de toboggan, il n'y a pas de tapis. Donc l'enfant spontanément, moins sollicité par ce matériel-là, va tenir plus facilement au bureau. Donc je peux faire par exemple mes 4 séances du mois sur une salle de groupe pour travailler plus ce qui est coordination fine, coordination oculo-manuelle, et puis après retourner dans ma salle de psychomotricité pour travailler un peu plus le global.
On a aussi une salle cocooning où c'est beaucoup plus contenant, avec la piscine à balles, un espace où les enfants peuvent vraiment se lever aussi, qu'on appelle la taupinière, et des coussins. Et donc pareil, les enfants qui sont un peu trop excités et qui ne peuvent pas tenir dans une salle avec autant de stimulation que dans nos salles classiques, on peut venir travailler dans cette salle-là où ils vont pouvoir décharger dans la piscine un petit peu et après revenir sur les tapis et faire quelque chose de plus calme.
Est-ce qu'ils peuvent dormir ?
Oui, moi j'ai un enfant à qui ça arrive de s'endormir, et ben il a sommeil. De toute manière, s'il est fatigué, ça servira à rien. Et c'est important qu'il sache qu'on est là pour l'écouter aussi. C'est très important, je pense, pour l'enfant.
Et la salle où il dort, c'est une salle spéciale ou...
Oui, justement, c'est souvent la salle cocooning au final où il s'endorme après avoir un petit peu déchargé.
Et il y a des lumières tamisées, comment ça se passe ?
Les couleurs sont plutôt pastels du coup, et puis il y a beaucoup de coussins, donc c'est assez moelleux.
Est-ce que vous allez à domicile ?
Oui, tout à fait. On va à domicile. C'est souvent plus dans le cadre de la prévention, puisqu'on a aussi la chance au CAMS de faire de la prévention. Donc, c'est des parents qui sont interpellés parfois par le développement de leur enfant, pas que psychomoteur, qui peuvent téléphoner au CAMS et demander une consultation. Alors, si c'est un problème psychomoteur avec une psychomotricienne ou avec une psychologue, avec la puéricultrice, avec le médecin aussi parfois. Et du coup, on se rend, nous, à domicile. C'est vrai que dans le cadre de la psychomotricité, pour le tout petit, le bébé, on va aussi regarder comment il est installé à la maison, s'il y a la présence du matériel de puériculture et comment elle est adaptée au tout petit, qui présente une pathologie ou non.
Vous pouvez donner des conseils aux parents ?
Oui, tout à fait. Alors, je vais donner des conseils très basiques. Je pense que c'est important d'avoir du bon sens avec son bébé. qu'ils dorment dans un lit et non pas dans un siège auto comme les maxi-cosy, qu'ils mangent quand il est tout bébé dans un transat, dans une position demi-assise, mais un transat, ce n'est pas un lit. Et je pense que et on est nombreuses à le penser en tant que psychomotricienne, qu'un enfant se développe très bien sans beaucoup de choses, des jeux simples, l'attention de ses parents suffit. Il n'y a pas besoin de youpala, il n'y a pas besoin d'accessoires qui vont le tenir ou assis ou debout pour qu'il se développe. Au contraire.
Est-ce que vous parlez de la télé avec les parents ?
Alors là, je vais peut-être plus passer le relais à ma collègue orthophoniste.
Oui, on en parle beaucoup parce qu'on s'adresse à des enfants tout petits et la télé n'est pas forcément la meilleure des stimulations pour des enfants petits. Donc c'est vrai que peut-être que moi, le message que je souhaiterais faire passer, c'est que la télé, en fait, ce serait bien de ne pas la mettre le matin, de ne pas la mettre le soir avant de s'endormir, de ne pas la mettre non plus pendant les temps de repas et surtout que l'enfant n'ait pas une télé dans sa chambre, qu'elle reste dans une pièce commune. Et la télé, c'est important de la regarder aussi avec son enfant pour pouvoir commenter, réexpliquer. C'est le cas de la télé, mais c'est aussi le cas de l'ordinateur, des petites vidéos qu'on va regarder sur smartphone, les tablettes, etc.
Il y a beaucoup de parents qui se servent de la télé comme palliatif.
Il faut savoir que l'enfant, il est hypnotisé par la télé. On dit souvent, ah oui, mais il adore, il la regarde, mais en fait, il voit plein d'images qui bougent très très vite, il n'arrive pas à décoder, et ça l'hypnotise vraiment. C'est comme, si vous aviez un spot lumineux qui n'arrête pas de clignoter à côté de vous, vous le regardez, on peut pas s'en empêcher, et c'est pareil, c'est la même chose qui se passe pour l'enfant. Il ne prend pas plaisir à regarder la télé, il est hypnotisé.
Et pendant qu'il fait ça, il n'est pas l'essentiel.
Il fait pas, voilà, tout.
Il fait pas autre chose, voilà. Surtout. C'est bien ça le problème dans le développement d'un tout petit, c'est que les écrans sont très chronophages et c'est du temps que l'enfant ne passe pas à manipuler, à lire un livre, et aussi du temps qu'il ne passe pas à interagir avec ses parents, à discuter.
Donc à regarder avec modération.
Grande modération.
Oui. Et quand vous allez donc chez les parents, mais est-ce que les enfants, vous allez les promener avec vous, parce que vous avez vos ateliers au CAMS, mais est-ce que vous allez dehors avec eux pour leur montrer la nature, non?
Non, au CAMS, non. Avec les petits, c'est pas des choses qu'on fait.
On fait ça en fin d'année, surtout pour clôturer, pour faire un peu une fête de fin d'année à l'extérieur, qui se fait à l'Acrobranche en général.
Oui.
Toi, tu vas à la piscine au
final. Voilà, on va au bassin des Carmes, qui est un bassin chauffé à 33 degrés, donc qui est très bien pour que les enfants puissent y rester une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais on va pas dans les parcs. On pourrait, pour travailler par exemple le vélo, la draisienne, l'équilibre. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on fait sur les 45 minutes, c'est un petit peu compliqué à mettre en place.
Puis on a de longs couloirs, alors on peut faire du vélo.
On a des très grands couloirs, donc on peut faire du vélo et de la draisienne ou du tricycle dans les couloirs. Oui.
Et quand ils sont dans l'eau, est-ce qu'il arrive qu'ils sont tellement bien dans l'eau qu'ils ne veulent pas en sortir ?
Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, oui. Dans l'eau, on vise, avec les enfants hypertoniques, on vise la détente. Et avec les enfants plutôt mous, hypotoniques, on va viser la stimulation. Et c'est vrai qu'en général, les enfants sont plutôt bien dans l'eau. Après, au bout de 45 minutes, en général, ils sont quand même fatigués, donc on n'a pas de grosses difficultés à les faire sortir de l'eau. Et on a des séances, comme toutes nos séances en général au CAMS, qui sont ritualisées, avec vraiment une façon de débuter la séance, une façon de la clôturer, pour que l'enfant puisse se repérer dans le temps, puisqu'il n'arrive pas à lire l'heure sur l'horloge, bien sûr.
Et vous êtes avec eux dans l'eau ?
On est avec eux et un des parents.
À chaque fois ?
Oui, oui, oui. C'est des tout-petits, n'ont pas pied dans ce bassin. Donc, on travaille beaucoup sur les interactions parents-enfants, sur la séparation, comment sécuriser son enfant, comment lui faire prendre conscience de la notion du danger, en plus de toute la stimulation psychomotrice avec les tapis, les balles, les jeux.
Et quand les parents laissent leur enfant avec vous, est-ce qu'ils ont peur de laisser leur enfant ?
Oui, ça arrive. Oui, oui, tout à fait. L'eau, c'est un milieu qui n'est pas anodin, qui n'est pas naturel pour l'homme. Donc, effectivement, on peut avoir des craintes formulées par les mamans, les papas, comme moi, je peux l'avoir quand mon fils est dans l'eau. Donc, des choses tout à fait naturelles qu'on accueille et qu'on essaye d'inclure dans notre prise en charge, de rassurer et de travailler petit à petit.
Vous dites que l'eau n'est pas naturelle pour l'homme, mais quand on est dans le ventre de notre maman, on est dans l'eau.
Oui. Mais on ne respire pas dans ce milieu-là.
Oui, mais quand vous les mettez dans, tout petit dans l'eau, est-ce que vous voyez à un moment donné qu'ils...
Oui, souvent, effectivement. Souvent, on voit qu'ils sont à l'aise. Et ce qui est aussi un facteur important, c'est le portage. Le portage, voilà. Ou du soignant ou de la maman. Et c'est vrai que ces deux choses-là font que l'enfant arrive souvent à être bien dans l'eau. Alors, pas forcément très détendu au niveau moteur, parce qu'il y a des pathologies qui font qu'ils peuvent être tendus. Mais on a rarement eu des enfants qui n'aimaient pas l'eau et qui ne voulaient pas y rentrer, effectivement.
Et quand les enfants veulent dormir, vous privilégiez comment? Sur le dos? Comment ils sont le mieux?
Là, du coup, c'est les enfants un peu plus grands, en général, qui s'endorment. Après, les bébés qui s'endorment, voilà, on les laisse en effet sur le dos ou dans les bras de leurs parents. Mais les enfants plus grands, ils se mettent dans la position qui leur est le plus confortable. Vraiment, c'est eux qui... Ça vient d'eux.
Il n'y a pas de position préconisée?
Alors, pour le tout petit, en effet, c'est plus conseillé de dormir sur le dos. Mais après, moi, je parle là plus des enfants de 3 ans, où là, non, il n'y a pas de conseil particulier.
Et est-ce que vous avez eu des cas où les enfants qui étaient avec vous avaient des absences au niveau de respiration? Comment vous êtes là? Comment ça peut se passer?
Non, on n'a jamais eu ce cas-là.
Et dans tous les cas, on a notre médecin qui est dans notre structure. Donc si jamais on a un souci quelconque de santé ou une crise d'épilepsie ou quoi que ce soit, on sait qu'on peut compter sur elle et qu'elle est là. Elle est juste à côté.
Et ça peut arriver des crises d'épilepsie?
Ça pourrait arriver.
Oui, on a des enfants qui présentent cette pathologie-là, alors plus ou moins importante et équilibrée. Donc oui, ça peut arriver qu'on ait des tout-petits qui fassent des crises d'épilepsie. Chez le tout-petit, ça peut être assez impressionnant. Et effectivement, on sollicite le médecin et les parents qui, en général, sont pas loin.
Mais vous les prévenez dans tous les cas?
Ah oui.
Quoi qu'il se passe?
Oui.
Est-ce que par rapport à votre métier, vous découvrez d'autres absences ou d'autres évolutions de l'enfant? Parce qu'un enfant, sa vie, mais on n'est pas des robots, heureusement, même s'il y en a beaucoup qui voudraient que nous le soyons. Est-ce que il y a des enfants qui sortent de ce que vous voyez d'habitude?
Oui, chaque enfant est différent et selon ses pathologies ou selon son vécu. Effectivement, ils peuvent présenter des signes qui peuvent nous alerter. Et dans ce cas-là, on fait souvent un retour au médecin, à la psychologue, pour avoir leur avis. Et si ça nous inquiète, on demande un regard supplémentaire.
On les oriente souvent vers d'autres médecins plus spécialistes. S'il y a quelque chose qui nous questionne, souvent à l'entrée du CAMS, on a quand même un rôle de diagnostic, de dépistage. Donc du coup, s'il y a quelque chose qui nous interroge, on envoie chez l'ophtalmo, chez l'ORL, chez le neuropédiatre, chez le cardiologue, etc. Et c'est souvent ça. Dès que nous, on a une petite inquiétude, on demande à notre docteur, donc Pascale Quenette, de voir l'enfant. Et puis c'est elle qui va nous dire, ah oui, ben, on va peut-être l'adresser de tel ou de tel côté pour avoir des réponses, du coup.
Un enfant peut régresser?
S'il a une pathologie dégénérative, oui, il peut régresser.
Et dans ce cas-là, vous avez une votre structure. Est-ce que vous pouvez donner l'enfant qui est avec vous à d'autres personnes, hors CAMS?
Oui, donc le CAMS, c'est une structure de diagnostic, de soins, qui s'arrête quand l'enfant a 6 ans. Il peut s'arrêter avant. Et nous, on travaille aussi l'orientation avec les parents, avec les structures d'accueil comme les crèches ou comme les écoles. Mais souvent, l'orientation est donnée par le médecin pour permettre le suivi à plus ou moins long terme de l'enfant, parce que la pathologie ne s'arrête pas à 6 ans. Donc il y a besoin, effectivement, on oriente dans des structures associatives.
Là, vous représentez le CAMS, mais la semaine dernière, il y a eu une semaine par rapport à l'autisme. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est allé à une conférence, a vu des spectacles?
Du coup, moi, je suis allée à celle de mardi soir, où il y avait du coup la présentation de Joseph Chovanec sur son parcours personnel, mais voilà, sur l'autisme au sens plus large. Et puis la présentation du film documentaire Le cerveau d'Hugo, qui était très intéressant. D'ailleurs, on était nombreux du service à y être allés au final. Et puis on a croisé des parents aussi là-bas et je trouvais ça très intéressant d'avoir sa vision à lui et tout son espoir sur l'évolution des enfants. Et c'est vrai que ça nous remet aussi là-dedans tout l'espoir qu'on peut avoir et comment il faut vraiment accompagner les familles dans l'annonce du handicap qui n'est vraiment pas évidente.
Oui, ce sont des demandes qui ne sont pas parallèles, ils se joignent.
le monde de l'autisme et le nôtre. Oui, au final, y a un écrit assez beau qui parle du fait d'une maman qui se prépare à un super voyage en Italie, qu'elle a tout prévu, qu'elle a appris la langue, etc. Et puis au final, y a un problème d'aiguillage, elle se retrouve en Hollande. Et puis bah, du coup, elle n'avait pas du tout prévu d'aller en Hollande. C'est un peu gris. Elle ne connaît pas la langue, elle est un peu perdue, elle ne sait pas ce qui s'y passe. Et puis au final, qu'elle se rend compte de toutes les belles choses qu'il y a dans ce nouveau pays. Et c'est vrai que c'est un peu, on peut le rapprocher un petit peu à ce qu'on vit quand on accueille un enfant autiste. On se prépare à plein de choses et puis au final, c'est très différent. Ça va un peu plus lentement, mais il y a des choses magnifiques aussi à découvrir dans ce monde-là. Et c'était rigolo parce que Joseph Chovanec a fait une petite référence à ce texte au final. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et c'est vrai qu'il faut qu'on garde ça en tête, nous aussi, qu'on accompagne les familles dans l'annonce du handicap. Et c'est pas chose facile et il faut vraiment être présent pour eux.
Mesdames, je vous remercie.
Merci.
Merci.
Merci Fanny, Marie et Caroline d'être venues pour l'équipe du CAMS à Fréquence Mistral à Digne. Si vous voulez revenir parler à notre micro, la porte est ouverte. Comme
avec
je l'ai
plaisir.
Dit la semaine dernière, Dr Connett, Sophie et Annelise. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À bientôt.